Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Recevons les membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège en salle Clémentine vendredi 16 mai. Le pape Léon XIV a partagé sa vision de la diplomatie pontificale et donné des lignes directrices construites sur trois mots-clés: paix, justice et vérité. Nous reviendrons également sur cette rencontre avec Régis Kevin Bakiono, l'ambassadeur du Burkina Faso près le Saint-Siège, qui a été, selon lui, empreinte de considération, d'espérance et de responsabilité. Dans une déclaration conjointe de la Commission des conférences épiscopales européennes, COMEC, et du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, les évêques ont invité les politiciens des deux continents au respect réciproque au nom de la justice. Vous aurez tout à l'heure les détails dans l'actualité de l'Église. L'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui était en résidence surveillée à Libreville depuis le coup d'État d'août 2023, est arrivé vendredi en Angola avec son épouse et son fils, a annoncé la présidence angolaise. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique sur le continent, qui nous conduira aussi au Tchad et en Guinée, avant de conclure l'édition de notre programme avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
C'est l'un des rendez-vous majeurs de ce début de pontificat. Le pape Léon XIV a reçu dans la matinée du vendredi les membres du corps diplomatique accrédités près le Saint-Siège. L'occasion pour le nouveau souverain pontife de partager sa vision de la diplomatie vaticane, et celle-ci, a-t-il souligné, doit être missionnaire. Suivons le compte-rendu de Jean-Charles Puzzolou.
L'un des souhaits de Léon XIV, c'est que les diplomates accrédités près le Saint-Siège aient la sensation d'appartenir à une famille, une petite société, mais antérieure à toute société civile, des mots repris à Rerum Novarum. En effet, dans la vision de Léon XIV, que l'on commence à découvrir au fil des premières interventions, la paix se construit dans le cœur et à partir du cœur. Elle se construit au quotidien, dans les actes et dans les mots. Je vous propose de l'écouter.
Dans la perspective chrétienne, come anche in quella di altre esperienze religiose.
Dans la perspective chrétienne, comme dans d'autres expériences religieuses, la paix est avant tout un don, le premier don du Christ. Je vous donne ma paix.
Vi do la mia pace.
Un don qui est actif, engageant et qui nous concerne tous. La paix est donc le premier pilier pour l'action missionnaire et diplomatique du Saint-Siège. Le deuxième étant la justice, une justice au service de la lutte contre les inégalités sociales. Le troisième pilier sur lequel doit se construire une diplomatie missionnaire est la vérité. Dans un monde virtuel où les mots revêtent des connotations ambiguës, l'Église, explique le souverain pontife, ne doit jamais se soustraire à son devoir de dire la vérité sur l'homme et le monde. Elle peut recourir à un langage franc, mais attention, toujours dans la charité. Les mots peuvent blesser, a par ailleurs redit Léon XIV, mais c'est la vérité qui nous permettra d'affronter les défis de notre temps, soit les migrations, l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et la sauvegarde de notre terre bien-aimée. Enfin, le Saint-Père appelle les diplomates et chacun d'entre nous à laisser derrière nous les conflits, à réaliser son humanité dans la vérité, en espérant que ce chemin de conversion mène à la paix dans les contextes les plus éprouvés, dit-il, comme l'Ukraine ou la Terre Sainte.
Merci Jean-Charles. À ce propos, nous ferons un retour sur les impressions de l'ambassadeur du Burkina Faso près le Saint-Siège, Régis Kevin Bakiono, qui a également pris part à cette audience. Le pape Léon XIV a reçu jeudi dans la bibliothèque du Palais Apostolique, lors d'une de ses premières audiences, l'archevêque-major de l'Église gréco-catholique d'Ukraine. Sa béatitude Chevchouk a exprimé sa gratitude pour cet entretien et les mots du Saint-Père sur l'Ukraine et a offert un tableau représentant la douleur du peuple ukrainien, intitulé « Prière de Requiem ». Monseigneur Chevchouk a profité de l'occasion pour présenter la mission de son Église et pour inviter le pape à se rendre en Ukraine pour une visite apostolique. Aujourd'hui, nous croyons que la visite du pape pourra contribuer à arrêter la guerre en Ukraine, a souligné le prélat, précisant que des millions d'Ukrainiens l'attendaient. Dans le cadre des activités de l'année sainte, des milliers de pèlerins se sont rendus à Rome pour célébrer vendredi le jubilé des confraternités. La journée du vendredi a été consacrée à des pèlerinages et la passation de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Les pèlerins concluront leur jubilé dimanche 18 mai avec la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV. Dans une déclaration conjointe de la Commission des conférences épiscopales européennes, COMEC, et du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, les évêques ont invité les politiciens des deux continents au respect réciproque au nom de la justice. Les prélats ont également souligné la nécessité d'une collaboration pour soutenir la solidarité et promouvoir le développement. Plus de détails avec Marie-Josée Moindo.
Nous savons que le monde peut changer. Tel est le titre de cette déclaration qui exprime une préoccupation en vue de la réunion des ministres des Affaires étrangères européens et africains prévue à Bruxelles le 21 mai prochain. L'Afrique, lit-on dans le message, n'a pas besoin de charité ni d'être un champ de bataille pour des intérêts extérieurs. Elle a besoin de justice et d'un partenariat fondé sur le respect réciproque, sur la gestion de l'environnement et sur le caractère central de la dignité humaine. Les évêques d'Afrique et d'Europe indiquent ainsi aux responsables politiques des deux continents quatre points fondamentaux sur lesquels baser les actions et les lignes de conduite, à savoir la promotion de l'agroécologie, la protection des systèmes de gestion des semences par les agriculteurs et l'interdiction d'utiliser des pesticides hautement dangereux exportés en Afrique. Ils exhortent également à soutenir une vision de partenariat fondée sur la dignité de tous les peuples, le respect mutuel et l'écologie intégrale. L'Afrique et l'Europe, ont dit les évêques en conclusion, pourraient devenir les moteurs d'une revitalisation de la coopération multilatérale en renforçant leurs liens de longue date, marqués par nos racines communes et notre proximité géographique vers un partenariat juste et responsable qui place les personnes au centre.
Merci Marie-Josée.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui était en résidence surveillée à Libreville depuis le coup d'État d'août 2023, l'ayant chassé du pouvoir, est arrivé vendredi en Angola avec son épouse et son fils à annoncer la présidence angolaise. Rappelons que le mercredi 14 mai 2025, la première chambre d'accusation spécialisée leur accordait la liberté provisoire, à raison notamment de leur état de santé, devenu incompatible avec les milieux carcérales, a déclaré Eddy Minang vendredi à Libreville. Le magistrat a également rappelé que cette décision de mise en liberté provisoire n'interrompt nullement le cours normal de la procédure, qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès juste, transparent et équitable, et dans les délais raisonnable. L'ancien premier ministre tchadien Succé Massra, figure de l'opposition, a été interpellé vendredi pour diffusion de messages d'incitation à la haine liés à des affrontements survenus la veille dans le sud-ouest du pays, a annoncé la justice tchadienne. À la suite d'affrontements communautaires dans la région de Lougon occidental, sud-ouest du Tchad, dont le bilan fait état de 42 victimes, majoritairement des femmes et des enfants, les enquêtes menées par la police judiciaire ont révélé l'implication de M. Massra Succé, a déclaré le procureur de la République, Oumar Mahamat, lors d'un point de presse en fin de matinée. Le parti de M. Massra avait auparavant déclaré qu'il avait été enlevé. Sékou Kondé, responsable du parti de l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé par un coup d'État en 2021, a été arrêté puis placé en garde à vue jeudi lors d'une réunion avec des militants, a indiqué sa formation politique et une source sécuritaire. L'opposant serait actuellement en garde à vue au commissariat central de Gbessia, à Conakry. Nous le disions à l'entame de cette édition, le pape Léon XIV a reçu vendredi 16 mai les membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège en salle Clémentine au Vatican. Ces diplomates ont pu s'imprégner de la vision du nouveau souverain pontife sur la diplomatie vaticane, promotrice de paix, de justice et de vérité. Le pape s'est également attardé sur la volonté de consolider le dialogue avec eux et leur pays. Régis Kevin Bakiono, qui est l'ambassadeur du Burkina Faso près le Saint-Siège, revient sur cette rencontre qu'il a décrite avoir été empreinte de considération, d'espérance et de responsabilité.
C'est un sentiment de gratitude d'abord qui m'anime au sortir de cette première rencontre avec Sa Sainteté le pape Léon XIV. Et pour nous, les membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, et c'est un moment qui marque une étape très importante et qui est empreinte de considération, d'espérance et de responsabilité. Le CPR, tout de suite, dans ses premiers mots, a témoigné une attention bienveillante envers les réalités du monde contemporain dans lequel nous sommes, et en particulier les réalités qui touchent les peuples que chacun de nous représente ici. Et moi, j'ai été frappé par la clarté de sa vision, par la hauteur spirituelle de son propos et aussi par son humilité et sa disponibilité, sa disposition au dialogue. Donc, voilà un peu ce qui m'anime. En tant que diplomate africain, en tant que diplomate burkinabé, je me réjouis de cette première rencontre qui, pour moi, est une façon de poser un pont entre l'Église et les nations dans le respect de toutes les parties.
Justement, Excellence, le Saint-Père a notamment évoqué la consolidation du dialogue avec vous, les diplomates, et vos pays respectifs. Quel commentaire faites-vous sur ce point de cette consolidation du dialogue?
Je dirais qu'effectivement, le Saint-Père a mentionné l'importance du dialogue et aussi de la famille même des peuples. Et donc, en soulignant l'importance du dialogue et du sentiment d'appartenir à une famille, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que le dialogue, comme nous le savons, est le cordon qui permet de relier des personnes de cultures différentes. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très, très, très fondamental, parce que sans le dialogue, nous n'arrivons pas justement à construire. Et sans le dialogue, c'est le lit qui est fait tout de suite à la destruction.
Le pape Léon XIV, qui, dans son discours, a dévoilé sa vision de la diplomatie pontificale en donnant les lignes directrices sur trois mots, la paix, la justice et la vérité. Quelle analyse faites-vous de cette vision du Saint-Père?
J'adhère à ces trois mots que le pape a dégagés comme les piliers de l'action missionnaire de l'Église et du travail diplomatique du Saint-Siège. La paix que nous devons construire, comme il le dit dans son message, non seulement dans nos cœurs, mais aussi par le dialogue, parce que le Saint-Père a relevé que les mots sont aussi porteurs d'une charge qui peut être meurtrière. Et voilà pourquoi la paix, nous devons la construire dans nos cœurs et aussi et par le dialogue. La justice permet de remédier aux inégalités et protège aussi la dignité des personnes. Et je crois que ça, c'est vraiment très intéressant de le souligner. Et enfin, la vérité qui est nécessaire pour bâtir, consolider des relations pacifiques et aussi pour faire face aux défis de ce monde.
Quelle est votre prière pour le pape Léon XIV?
Avec le pape Léon XIV, nous nous engageons dans un renouveau de l'Église. Et c'est à cela qu'il nous appelle aussi. Nous lui souhaitons une excellente mission guidée par l'action du Saint-Esprit avec le concours et l'intermédiation de la Sainte Vierge Marie. Et nous sommes disposés à l'accompagner au mieux par nos prières, par nos actions, par nos différentes interventions pour le succès de sa mission et pour que l'Église puisse remplir sa mission du mieux possible.
Le pape François n'a eu de cesse appelé à la paix dans les pays du Sahel, en proie au terrorisme, une région dont fait partie votre pays, le Burkina Faso. Dans ce sens, qu'attendez-vous du pape Léon XIV?
Effectivement, le pape François n'a eu de cesse de témoigner sa proximité aux pays en proie au terrorisme, notamment le nôtre et les autres pays du Sahel qui sont fortement touchés par le terrorisme. Et nous nous attendons à ce que le Saint-Père puisse s'inscrire dans la même dynamique. Nous nous attendons à ce que le Saint-Père puisse s'inscrire dans la même dynamique que son prédécesseur et que sa voix soit mise au service de nos nations, de nos peuples en proie au terrorisme sous toutes ses formes. Et un terrorisme que nous savons est encouragé par certains sponsors. Nous prions pour le succès de la mission du pape, et nous demandons au pape aussi de prier pour nous et d'agir en faveur donc des pays du Sahel, en faveur du Burkina Faso.
Vous venez de suivre Régis Kevin Bakiono, ambassadeur du Burkina Faso près le Saint-Siège, entretien réalisé par Françoise Niamia. Refermons l'édition de notre programme avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Fabrice Baguendekere.
Eh bien Christian, à la une des journaux internationaux est la rencontre Moscou-Kiev à Istanbul pour les premières discussions sur l'issue de la guerre depuis le printemps 2022 où des pourparlers initiaux n'avaient pas abouti. Des délégations russes et ukrainiennes sont présentes à Istanbul depuis jeudi, mais les modalités des échanges restent encore peu claires. À Ankara, Anne Lauer.
En dépit d'un intense ballet diplomatique pendant toute la journée d'hier, l'incertitude continue de peser sur les pourparlers d'Istanbul entre l'Ukraine et la Russie. Dans la soirée, la délégation russe, menée par Vladimir Medinsky, conseiller du président Poutine, s'est entretenue avec le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan, mais sans la partie ukrainienne. Ce vendredi, une série de rencontres sous différents formats sont à l'ordre du jour. Le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé que des réunions trilatérales devaient avoir lieu. Une réunion entre les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie est déjà confirmée. Le reste du programme est encore incertain. Des discussions à quatre sont aussi envisagées, mais sans être confirmées. Les attentes restent minces. Le chef de la diplomatie américaine a confié jeudi ne pas avoir de grands espoirs pour ses pourparlers d'Istanbul. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Et notre focus, la bande de Gaza. Plus de 50 personnes tuées selon la défense civile palestinienne, l'armée israélienne qui continue de bombarder l'enclave malgré les multiples appels au cessez-le-feu, l'effroi et la panique règnent. Il y a une vague massive de déplacements des civils. La famine atteint désormais des niveaux extrêmes. Les Hamas espèrent une reprise de l'aide humanitaire conformément aux accords signés avec les États-Unis pour la libération lundi du soldat américano-israélien. Depuis Jérusalem, Valérie Ferron.
Les bombardements israéliens contre les populations civiles de la bande de Gaza ne cessent de s'intensifier ces derniers jours, faisant notamment plus de 60 morts ce jeudi dans la région sud de Khan Younes. Au moins 15 personnes, dont 11 enfants, ont par ailleurs été tuées par des tirs de missiles qui se sont abattus sur une clinique dans le camp de réfugiés de Jabalia dans la région nord, où 45 enfants et adultes avaient été tués dans la nuit de mardi à mercredi. L'armée israélienne continue également de cibler les hôpitaux, bombardant à 3 reprises en 24 heures l'hôpital européen près de la ville de Khan Younes. En Cisjordanie, les forces d'occupation israéliennes ont entamé une vaste chasse à l'homme pour retrouver l'auteur de l'attaque qui a tué une femme colon enceinte et fait des blessés. L'armée a mené des raids et assiégé des maisons, tuant au moins 4 personnes dans le village de Tamoun. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et comme nous le savons, le président américain Donald Trump a clôturé vendredi sa tournée dans les Golfes aux Émirats Arabes Unis, le premier déplacement international majeur du président américain depuis sa réélection. Des accords ont été signés pour un montant total de 200 milliards de dollars selon la Maison Blanche. Ce déplacement a également été ponctué de déclarations choc sur les crises qui secouent la région, de la levée des sanctions contre la Syrie à la guerre de Gaza en passant par le nucléaire iranien. Pour la bande de Gaza, le président américain a dit vouloir prendre le contrôle de ce territoire palestinien et en faire une zone de liberté. Ce à quoi le Hamas a rétorqué que Gaza n'était pas à vendre. Autre nouvelle, le Réseau mondial contre les crises alimentaires, un réseau qui regroupe plusieurs agences onusiennes, en premier lieu la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a publié son rapport annuel ce vendredi. Selon ce rapport, la faim a frappé de façon aiguë un nombre record de 295 millions de personnes en 2024 dans 53 pays, en particulier sous l'effet des conflits.
C'est la 9e édition qu'on publie et qui rapporte 3 facteurs principaux de l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Le premier étant le conflit et l'insécurité, notamment dans des pays par exemple comme le Soudan ou Haïti. D'autres facteurs importants aussi de l'insécurité alimentaire aiguë et des crises alimentaires sont notamment les chocs climatiques extrêmes. On a fait face à un phénomène de El Niño en 2024 très intense, notamment aussi les chocs économiques qui continuent d'affecter les populations les plus vulnérables et les plus fragiles dans le monde.
C'était Aurélien Mellin qui travaille au département des urgences de la FAO dont le siège est à Rome.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Très chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Un grand merci de l'avoir suivi et restez penchés sur nos programmes.